Un rapport extrêmement inquiétant, Marie-France, mais les gens vont peut-être dire un de plus pour nous alarmer. Il n'en demeure pas moins, on le sait, le climat se réchauffe, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui veulent s'y opposer, c'est leur affaire. Mais les chiffres sont là, les scientifiques se sont réunis et ont regardé qu'au Canada, cette dégradation de la situation se fait à un rythme deux fois plus rapide qu'ailleurs, notamment en ce qui touche la présence de glace dans l'Arctique canadien.
Exactement, et ce sont les scientifiques d'Environnement Canada qui ont produit ce rapport-là. Effectivement, un autre, mais ils vont tous dans le même sens. Il faut commencer à prendre ça au sérieux. Pourquoi deux fois plus vite qu'ailleurs? Parce que toutes les régions proches des pôles, des calottes glaciaires, il n'y a plus d'impact parce que à cause de la fonte plus rapide, à la fois sur Terre et dans les océans, ça attire la chaleur, alors qu'auparavant, la neige et la glace empêchaient justement ce réchauffement-là. Donc, l'impact est énorme, à cause aussi de l'activité humaine, bien sûr, et de notre dépendance aux énergies fossiles. Et on est évidemment nord-américain, on en produit beaucoup. Les données officielles, donc, montrent que la température moyenne au Canada depuis 1948 a augmenté de 1,7 degrés. Ça a l'air petit, mais 2 degrés font une différence énorme en ce qui concerne le climat. Et plus au nord du Canada, c'est 2,3 degrés et le pire est à venir. Je rappelle que le climat, ce n'est pas la météo. L'argument des climato-sceptiques, c'est toujours « Eh oui, mais il y a tellement fait frais cet hiver! » C'est pas un réchauffement climatique. Un hiver froid, un été chaud, est-ce que c'est normal? On ne mesure pas le quotidien quand on parle de climat, mais bien, on a un regard statistique sur le temps long, sur les variables à long terme et aussi loin qu'on peut remonter dans les compilations de statistiques sur la météo, et c'est ça qui parle des changements climatiques. Les conséquences, et même au sud, même chez nous, même dans les endroits où on va en vacances, sont déjà remarquables. Il y a augmentation du niveau des océans au Canada. Les zones, même pas arctiques, là, on parle de villes, mettons, du Manitoba comme Churchill, là où se ramassent tous les ours polaires dans la baie d'Hudson. Le pergélisol fond. Le pergélisol, c'est ce sol qui est gelé en permanence dans les régions un petit peu plus nordiques, et ça menace donc des communautés qui sont là. Les voies ferrées qui partent de Churchill, qui arrivent par le nord, qui descendent jusqu'à Churchill pour livrer des matériaux qui vont jusque dans le Midwest américain. Maintenant, les voies ferrées sont menacées et certains tronçons sont carrément hypothéqués parce que le gel n'est plus profond, parce que les hivers sont plus courts. Les côtes ne sont plus protégées par les glaces l'hiver lors des tempêtes, ce qui fait qu'aux îles de la Madeleine, ce qui fait que sur la côte nord, il y a de l'érosion comme on en voit maintenant depuis quelques hivers, mais les îles de la Madeleine ont reculé quoi de 10 mètres cet hiver, quelque chose d'absolument inouï. Donc, inondations côtières, acidification des océans à cause du dégel des banquises, ça menace les pêches, donc ça menace un mode de vie, ça menace des emplois, ce sont des choses très réelles, ça. Un phénomène qui va s'intensifier, ce sera la fréquence et l'intensité des phénomènes de température extrêmement chaude l'été, donc plus de sécheresse. On sait en ce moment qu'au Québec, il y a des agriculteurs qui doivent vendre leur bétail, qui mettent leur ferme en danger. On parle beaucoup de suicide des agriculteurs. Il y a un lien carrément à faire entre ça et ça. Les feux de forêt qui vont augmenter, des précipitations plus intenses, des inondations en milieu urbain, on commence à connaître ça, y compris
des
à
épisodes
Montréal.
De chaleur extrême. Absolument. On parle de canicules meurtrières.
Oui, tout à fait. Je me souviens plus combien de centaines de décès il y a eu dernièrement à cause de ça. Ça a été compilé. Fonte des glaciers dans l'ouest, les rocheuses, les belles rocheuses, dépêche-toi d'aller les voir, parce que d'ici la fin du 21e siècle, de 74 à 96 de la masse des fameux glaciers.
Ça paraît
dans
déjà.
Ça paraît déjà.
Ben, je pensais l'année passée, là. Oui. Et j'avais déjà été, peut-être une vingtaine d'années auparavant, on ne voit plus la même glace, notamment.
Ah, c'est clair.
Ah, non, sur les montagnes, c'est plus la même chose du tout, là.
Et on le voit dans toute la chaîne.
Et dans
des
les glaciers,
d'ailleurs,
sont
même,
tous
en,
ah, oui,
même quand
en récession.
On descend dans l'État de Washington, on voit vraiment, vraiment,
vraiment
la différence. Ça descend.
Ouais.
Le parc de glaciers, justement,
oui,
au Wyoming,
Glacier Park,
est en train
et même celui en Colombie-Britannique.
Littéralement. Donc, il faut agir parce que ça a un impact sur nos vies, mais il faut agir pas individuellement seulement, il faut agir collectivement par le biais des gouvernements. Et ça arrive, ce rapport, au moment où la taxe sur le carbone s'installe dans 4 provinces canadiennes opposées à cette mesure. Donc, donner un prix à la pollution peut être utile, mais c'est vraiment décourageant de voir ça et alarmant, tout à fait.
Exactement. C'est l'Allemagne qui a été la plus active pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Le gagnant, le pays gagnant, qui a fait le plus de progrès. On pourrait s'en inspirer.
Mais il faut tous faire des efforts. Vraiment.
Alors, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais on va rester sur la glace.
Exactement!
C'est dommage.
Bravo!
C'est très dommage parce que la Ligue canadienne féminine de hockey sur glace qui avait été créée et lancée en 2007 avait de très beaux objectifs. 6 équipes, 4 au Canada, 2 aux États-Unis, une aux États-Unis.
Et une en Chine.
En Chine.
Oui,
c'est loin
pour
aller jouer sur la route.
Oui.
Et puis malheureusement, elle va cesser ses activités dès le 1er mai.
Oui, parce que la Ligue semi-professionnelle a précisé que son modèle d'affaires n'était plus viable. Des championnes qui remportaient des médailles aux Jeux olympiques, qui étaient objet de fierté pour le Canada, pour le monde du hockey en général, qui faisaient vibrer notre fibre sportico-patriotique. Ces 6 équipes, tu l'as dit, portées à bout de bras par des gens d'affaires, par des philanthropes, dont Jeff Molson du Canadien, des filles qui participaient à l'essor du sport féminin, vraiment de manière formidable. On pense à des Danielle Sauvageau, des Marie-Philippe Poulin, des Charlène Labonté. Probablement que cette ligue va fusionner avec sa ligue rivale, la NWHL, 5 équipes aux États-Unis. Mais le problème reste le même. On peut imaginer que les équipes qui vont poursuivre leur partenariat avec le Canadien, les Flames de Calgary, les Leafs dans l'autre circuit. Mais ce sport-là va rester, Paul, dans le même purgatoire, dans la même sous-catégorie par rapport au délire de marketing et de fanatisme qui entoure le hockey masculin. Je veux rien enlever au hockey masculin, mais il faudrait peut-être donner au hockey féminin.
Mais sans mauvais jeu de mots, on n'est pas dans les mêmes ligues. Ce que je trouve décevant, c'est que pour la première fois, la saison dernière, en 2017-2018, les joueuses, les hockeyeuses, commencer à toucher des salaires.
Pour la première fois, Ligue date de 2007, tu te rends compte?
Oui, mais des salaires de famine.
Complètement.
Non, ridicule, mais au moins, on commençait à mettre de l'argent. Ça pouvait
varier
de 2 000 à 10 000 $
Oui, 2 500 pour les moins bien payés.
Imagine.
Le plafond salarial pour une équipe l'an dernier était de 100 000 $ Trouve-moi un joueur de hockey
Ovechkin
payé 100 000.
Par période, probablement, 10 000
$ Exactement.
Mais c'est ça, c'est sûr. Mais il y avait quelque chose de symbolique. Et je pense que...
Oui, mais on n'est plus à l'époque des symboles. On est en 2019, Paul. On est en 2019 et il faut vraiment... Oui, on dira que c'est pas la même qualité que le hockey masculin, mais en même temps, ces filles-là sont rapides, habiles, spectaculaires. Elles attirent un public et il y a un public et probablement que les plus jeunes générations sont vraiment prêtes à voir du hockey féminin de la même manière qu'on disait le soccer. C'est pas un sport nord-américain et tous les jeunes jouent au soccer aujourd'hui. La parité, parlons d'argent, la parité est une chimère. Les salaires, tu l'as dit, c'est vraiment incroyable. La Ligue a été créée en 2007 et il a fallu attendre 10 ans pour que les filles soient salariées. Tu sais que ces filles-là ont toutes une job de jour, évidemment. Ces filles-là payent leur bâton. Un bâton de hockey, Paul, c'est 250 $ Elles font à peu près 2 500 $ par année. Donc, un dixième seulement de leur salaire pour acheter un bâton. Il faut mettre des efforts de marketing, il faut en faire des stars. Il faut mettre vraiment, leur accorder valeur et légitimité. Il faut que les médias leur accordent la visibilité, du temps d'antenne, toutes les mêmes émissions qui invitent les mêmes maudites vedettes. Invitez donc des joueuses de hockey. Puis ça prend aussi des femmes qui œuvrent dans le milieu du journalisme sportif. Il y en a trop peu.
Il y en a,
mais il y en a trop peu. Il y en a vraiment trop peu. Révolution féministe absolument pour le monde du hockey féminin. Et tout le monde, gars comme filles, vont s'en tirer avec un spectacle extraordinaire.
Je vais t'inviter aux amateurs de sport et peut-être à Ron.
C'est mon rêve!
Moi, je pense que Ron pour inviter Marie-France. Je le recommande. Je recommande à Ron de t'inviter un soir.
Je l'ai rencontré tout à l'heure.
Non seulement tu le rencontres, mais tu devrais aller à son émission.
C'est vrai.
Et faire un plaidoyer. Peut-être que tu vas devenir la future commissaire de la relance de la Ligue mondiale de hockey féminin.
On veut aussi que les gars invitent des filles.
Quoi?
Parce que, non, non, parce que les gars de sport invitent des filles dans leur tribune, des filles, des joueurs.
Alors voilà, tu t'invites.
Il faut en faire des vedettes.
Ron,
vraiment, elles le méritent.
J'espère que le prophète est à l'écoute. Il aurait bien besoin d'ouvrir son église aux femmes comme Marie-France.
Oui.
Bonne chance, Marie-France.